Connaître le scoutisme à partir d'un gros livre que vient de faire paraître Philippe Lanéry, chercheur au CNRS. Le scoutisme en France, depuis plus de 65 ans, a touché peut-être plus d'un million de jeunes et des jeunes qui ont grandi, donc une influence sur le pays. On verra que les scouts de France ne sont pas en ghetto hexagonal, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est international. En fait, nous allons prendre notre temps pour connaître les scouts de France, dans leur histoire jusqu'à aujourd'hui. Philippe Lanéry, en fait, ça serait bien que vous vous présentiez. Je crois que vous êtes stéphanois, mais c'est pas suffisant.
Oui, je suis stéphanois, encore que je ne sois pas stéphanois d'origine, mais je suis presque lyonnais d'origine. Je suis de la région de Tarare. Alors, je suis...
Chercheur au CNRS.
Oui, je suis chercheur au CNRS, je suis plus exactement ingénieur d'études dans la terminologie officielle, et j'appartiens à une équipe de recherche associée au CNRS qui s'appelle le CRESAL. Alors, c'est un sigle. Le CRESAL, ça signifie Centre de Recherche et d'Études Sociologiques Appliquées de la Loire, qui travaille depuis quelques années notamment sur la vie associative, sur les travailleurs sociaux. J'ai un collègue, par exemple, qui vient de faire paraître un ouvrage aux éditions de La Découverte sur les travailleurs sociaux. Sur certains mouvements de jeunesse, j'ai un autre collègue qui est prêtre d'ailleurs, qui travaille à mi-temps au CRESAL et qui travaille sur la JOC et les mouvements qui en sont issus dans le cadre de la région de Saint-Étienne.
Indiscrétion pour confidence, vous pouvez nous dire son nom ?
Oui, il s'appelle Jean Nizet.
Merci. Alors vous êtes branché sur les scouts de France ?
Oui, alors une recherche sur les scouts de France pouvait par conséquent entrer dans le cadre de travail qui est celui de l'équipe de chercheurs à laquelle j'appartiens. Bon, alors évidemment, ça suffit pas comme explication. Pourquoi les scouts de France ? Bon, ça aurait pu être autre chose, un mouvement d'éducation populaire, les éclaireurs, les guides. Bon, eh bien d'abord parce que le scoutisme, notamment le scoutisme des scouts de France, représente incontestablement un phénomène social important. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez. Ensuite, parce qu'une telle recherche n'avait jamais été entreprise. C'est d'ailleurs assez bizarre, c'est assez curieux, ça m'étonne encore maintenant. Comment se fait-il qu'un mouvement aussi important qui a 65 ans d'existence en France, personne jusqu'à présent, historien, sociologue ou autre chercheur, ne soit appelé à ça ? Bon, ça me laisse un peu perplexe.
C'est un mouvement qui vit et qui ne faisait pas d'archives ?
Oui, mais c'est pas la raison, parce que des archives, quand on a un... Bon, c'est vrai qu'elles sont difficiles à trouver, là aussi j'y reviendrai, mais c'est pas parce qu'on a un certain manque d'archives qu'on est désarmé. On peut toujours interroger des témoins, et puis les archives malgré tout existent. Elles sont quelquefois très difficiles à trouver, mais elles existent.
C'est un mouvement de jeunes. Quand on est jeune, on regarde l'avenir, on n'a pas bien conscience de l'importance de son passé.
C'est la première explication qui m'a été donnée au Centre National des Scouts de France, quand la première fois que j'y étais, si vous voulez, le commissaire général de l'époque, Dominique Bénard, m'a dit « Oh, un mouvement est tourné vers l'avenir, bon, il a peu de mémoire, ben oui, mais je lui ai dit c'est dommage, en un sens. » Et d'ailleurs, il semble que les scouts de France soient d'accord avec ça, puisque à propos du 60e anniversaire, je crois, ils ont monté une exposition à Jambeville, ils ont demandé à tous les anciens du mouvement de se rassembler, d'amener leurs documents, leurs souvenirs, ils ont fait un espèce de musée, si vous voulez. Bon, ce qui signifie que les scouts de France, pour une raison, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir d'ailleurs, sont aussi à la recherche de leurs origines, de leurs racines.
Hein. Et de leur histoire. En fait, près du micro et avec Philippe Lanéry, nous nous trouvons avec M. Michel Raveau, qui fait partie de l'équipe départementale de Lyon, et aussi Mme Chollet, qui est l'épouse donc du commissaire départemental et qui partage cette responsabilité. En quelques mots, si vous aviez à répondre pourquoi ce livre, qu'est-ce que vous répondriez à M. Philippe Lanéry ?
Je pense que ce livre est important pour tous les responsables actuels du mouvement, pour les jeunes chefs, pour les chefs de groupe et pour tous les responsables des départements et des régions, pour connaître un petit peu l'histoire, voir dans quel cadre il se situe et puis puiser dans ce livre des éléments pour répondre à certaines difficultés qu'ils ont encore.
Alors, ça, c'est quelqu'un donc, qui est responsable aujourd'hui, qui n'a pas connu les origines, qui ne les a pas vécues. Monsieur Lanéry, ça rejoint votre motivation profonde ?
Oui, bien sûr, mais bon, si vous le permettez, ça nécessiterait de plus amples développements. Alors, je crois qu'on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Bon, je voudrais d'abord dire tout de même, ce qui n'a pas encore été dit, que ce livre s'appelle « Les scouts de France », avec en sous-titre « L'évolution du mouvement des origines aux années 80 » et qu'il est édité au CERF. Pour continuer un petit peu sur qu'est-ce qui m'a amené, enfin comment est-ce que j'ai été amené à écrire ce livre, il y a aussi d'autres raisons tout de même. L'histoire de ce mouvement, je m'en suis aperçu en commençant à travailler dessus, l'histoire de ce mouvement et de son succès, qui a été incontestable pendant des décennies, présente un certain nombre d'énigmes. J'en citerai une pour commencer, si vous voulez, parce qu'elle me paraît énorme. Comment se fait-il qu'un mouvement qui a été inventé en Angleterre, pour l'Angleterre, j'y insiste, au début il a été inventé pour l'Angleterre, par un général anglais en 1908, puisse encore attirer des dizaines de milliers d'adolescents en 1985, en France, et avec une pédagogie qui, si bien sûr elle s'est adaptée, n'a pas véritablement changé au point de vue des bases de la pédagogie.
C'est peut-être bon que vous nous rappeliez justement les bases de la pédagogie de Baden-Powell.
Bon, alors là, j'en aurai pour un moment, là.
Non, mais il n'y a pas de
problème. Les bases de la pédagogie, c'est compliqué à rappeler comme ça. Je préférerais passer la parole à un scout actuel, parce que sinon je risque d'être trop long.
Alors, Madame Raveau, on ne dit pas le sens de la nature, le sens de l'effort?
Si, on dit le sens de la nature, le sens de l'effort. Disons que l'idée essentielle, c'est que chaque enfant, chaque adolescent soit artisan de son propre développement.
Ça, s'autonomise, devienne responsable de lui-même.
Voilà, c'est ça. Et participe à son développement. Je crois que c'est une idée essentielle. Autour de cette idée, il y a des axes de développement de la personnalité et de la vie de l'enfant.
Si vous voulez, si on reprend les bases du scoutisme originel de Baden-Powell, qui date par conséquent d'avant la Première Guerre mondiale, hein, 1908-1909 à peu près, très rapidement, il y avait trois aspects profondément originaux par rapport à l'époque, et qui ensemble déterminent la spécificité de cette méthode. Il y avait le jeu, il y avait le système des patrouilles, et il y avait le système des badges, en anglais, c'est-à-dire des brevets. Bon, ces trois aspects qui sont d'ailleurs indissociables, et qu'on ne peut pas dissocier les uns des autres. Alors, le jeu, c'était le scouting était d'abord un jeu qui avait pour cadre la nature, un jeu d'extérieur, et ce jeu n'avait pas de règles édictées par une autorité. C'est-à-dire que c'est ça qui était profondément original dans le jeu, c'était que c'était les adolescents eux-mêmes, si tant est que le mot d'adolescent a un sens dans l'Angleterre de 1908, mais enfin ça c'est un autre problème. C'était les jeunes eux-mêmes, si vous voulez, qui déterminaient les règles du jeu. C'était un jeu qui n'était pas proposé de l'extérieur par une autorité quelconque ou par des règles quelconques. C'était donc, il y avait donc une forte inventivité qui était...
On dirait aussi aujourd'hui créativité.
Une forte créativité, c'est ça, qui était proposée. Et pour l'époque, bon, aujourd'hui le mot créativité, ça a un sens précis pour pas mal de gens, mais en 1908, c'était autre chose.
Puis vous avez dit le deuxième, c'est la patrouille.
Alors le système des patrouilles, qui est également profondément original pour l'époque, c'est une organisation de garçons en petites unités de 5 à 8 éléments, tout à fait comme maintenant, qui respecte au maximum les affinités et la hiérarchie naturelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de casser artificiellement les bandes de jeunes garçons qui se constituaient spontanément dans les collèges, dans les faubourgs, dans les quartiers, mais au contraire de récupérer les tendances naturelles de la sociabilité juvénile et de détourner l'énergie et l'activité des groupes de jeunes vers des buts positifs au moyen de la proposition scout proprement dite, c'est-à-dire au moyen de l'idéal qui était proposé aux scouts, la loi scout, qui était codifiée dans la loi scout de l'époque.
Donc on part d'une grande analyse du réel et de la vie des jeunes.
On part d'une analyse du réel et de la vie des jeunes, mais je dirais que c'est presque second dans l'idée de Baden-Powell. L'idée fondamentale de Baden-Powell, c'est, attention, l'Angleterre et son empire sont en danger.
Il y a une défense nationale.
Oui, c'est ça. C'est une sorte de réarmement moral à l'origine. Bon, Baden-Powell, c'est pas un sociologue, hein, c'est pas un théoricien, c'est pas un utopiste, c'est un général, c'est un militaire ouvert certainement, qui a beaucoup d'expérience, qui a énormément observé, parce que ça, c'est un observateur hors classe. Il a observé notamment les coutumes, les modes de vie des tribus, enfin, puisqu'il a été beaucoup dans l'Empire britannique, et en Afrique notamment, mais aussi en Asie, en Afghanistan. Bon, c'est un excellent observateur, et il s'est dit, mais ces gens-là n'ont un chien, mais ils vivent réellement, et nous sommes en train de mourir. Nous sommes tués à petit feu, ou lentement, par...
Déjà la technologie et l'industrialisation.
Notamment par la technologie et l'industrialisation, et par tout ce qui est... enfin, la ville est mauvaise pour lui, la ville de 1908, d'ailleurs, effectivement, La ville est mauvaise, non pas en soi peut-être, mais parce qu'elle entraîne des tares dans la société, et ces tares, comment les combattre?
Alors vous avez dit le jeu, la patrouille, l'organisation patrouille, puis les badges, troisième base.
Oui, alors le système des badges, c'est un système extrêmement original et astucieux, il faut bien le dire, qui consiste à trouver des brevets de compétences pour chaque garçon. Le maximum possible d'ailleurs, quel que soit ses goûts, quelles que soient ses capacités, il y a toujours quelque chose qu'il a envie de faire et qu'il est capable de faire. Et à ça correspond une badge, c'est-à-dire un brevet. Autrement dit, c'est un système qui consiste, à l'intérieur de l'unité scout, à donner aux garçons par l'intermédiaire de l'attribution d'un brevet qui correspond à ses capacités, le sentiment qu'il vaut quelque chose, qu'il a une valeur dans le groupe, qu'il a une compétence particulière.
C'est un peu le système des notes à l'école.
Ah non, parce que le système des notes à l'école, vous avez des bonnes notes et des mauvaises notes. Là, il n'y a pas de mauvaises notes dans le système des badges.
Ah oui, c'est toujours positif.
C'est toujours positif, et c'est ça qui fait l'originalité du système. C'est-à-dire que, bon, prenons un garçon, prenons des choses extraordinaires. Enfin, un garçon qui s'intéresse, par exemple, à l'entomologie. Bon, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de garçons qui s'intéressent à l'entomologie, mais il y en a quelques-uns. Eh bien, on va créer une badge d'entomologiste. Il aura un insigne avec un petit carabe sur sa manche, et puis ça lui permettra de se valoriser aux yeux du groupe. À côté, il y en aura un autre qui aura une badge de menuisier, un autre qui aura une badge de, je ne sais pas moi, d'astronome, d'apiculteur. Il y a toutes sortes de possibilités. Peu importe finalement, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que...
On veut valoriser au fond le jeune pour lui-même, lui donner une conscience positive de lui-même.
Voilà, exactement. Lui donner la conscience qu'il vaut quelque chose et qu'il... c'est quelque chose de tout à fait positif pour lui.
Et je dirais en plus qu'il peut progresser dans cette compétence. C'est ça qui est très important, c'est que toujours, avec effectivement ce badge, il a la possibilité de progresser.
Merci Madame Raveau. Philippe Lanéry, Banane Powell, Madame Chollet, excusez-moi. Monsieur Raveau voulait dire un mot. Non, vous voulez rien dire. On revient à Monsieur Philippe Lanéry. En fait, Banane Powell, ces trois bases, en même temps, c'était un chrétien.
C'était un chrétien, pas au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire que je serais beaucoup plus nuancé. C'était un anglican.
Oui, mais les anglicans sont bien chrétiens. Ils ne sont pas catholiques, mais c'est profondément chrétien.
D'accord, mais écoutez, là je m'excuse, mais je préférerais dire qu'il était d'abord anglais. Et en tant qu'anglais, il avait la religion anglicane. Bon, à côté de ça, il était franc-maçon. Son père, par contre, était pasteur anglican. Alors, bon, je ne sais pas, c'est certain qu'il avait le sens de Dieu, mais au sens où l'avaient les Anglais de l'époque. Bon, je ne suis pas assez calé en analyse de la religion anglicane, si vous voulez, pour savoir si l'Angleterre primait sur Dieu ou si Dieu primait sur l'Angleterre, je n'en sais rien. Mais enfin, je crois que la religion de Baden-Powell n'est pas tout à fait comparable à la religion catholique. Et c'est important parce que, comme on le verra, si vous voulez, un peu plus tard, lorsque le scoutisme est arrivé en France avec ses origines anglaises et anglicanes, contrairement à une idée qui est peut-être un peu répandue, l'Église catholique française l'a d'abord très violemment combattue.
Mais l'Église catholique, est-ce qu'elle ne combat pas toute chose qui est innovée? La JOC aussi était pratiquement en difficulté dans ses démarrages.
Ben, je crois qu'on ne peut pas dire ça d'une manière générale de l'Église, quand même ça serait être un petit peu sévère. Ça dépend des époques, ça dépend des conditions. Bon, là évidemment en France, on était à une période où l'Église avait une attitude extrêmement défensive, puisqu'il venait d'y avoir les lois laïques, puisque donc la séparation de l'Église et de l'État, puisque la République... était en train d'osciller entre la gauche ou le centre-gauche et puis des positions un peu plus conservatrices. Bon, il y avait tout un... Enfin, le petit Percombe n'est pas loin. Et puis, il y avait aussi ce qui avait également provoqué énormément de débats dans lesquels les catholiques se sont trouvés impliqués, bien que ça ne les ait pas concernés directement, pardon, c'est l'affaire Dreyfus. Hein, c'est les retombées de l'affaire Dreyfus qui sont également assez proches.
En fait, si le scoutisme va démarrer en France vers 1920, c'est-à-dire après la guerre de 14-18.
Non, le scoutisme ne départ pas en France vers 1920. C'est là qu'il faut ne pas faire de confusion. Le scoutisme protestant et laïque démarre en France à partir de 1910, c'est-à-dire 2 ans seulement après l'invention du scoutisme par Baden-Powell. C'est le scoutisme des scouts de France qui démarre en 1920. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs qu'il y ait eu certaines tentatives isolées de scoutisme catholique qui étaient faites avant la guerre de 14-18.
Mais ce que vous dites, au fond, est peut-être peu connu, à savoir que dès 1910, alors des scouts non confessionnels, c'est comme ça qu'il faut dire, et issus de Baden-Powell 1909, foulent le territoire français.
Oui, mais pas seulement des scouts non confessionnels, parce qu'il y a aussi des scouts protestants. Bon, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas confessionnels. Il y a effectivement 2 branches du scoutisme qui commencent à se développer à partir de 1910, et assez vite, des éclaireurs laïcs et des éclaireurs protestants. Bon, avec une foule d'initiateurs, parce qu'il faut bien dire que ça part un peu de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a au moins 5 ou 6 personnes, dont on pourrait citer les noms par la suite si ça peut intéresser, mais il y a au moins 5 ou 6 personnes, dont 2 pasteurs protestants, qui commencent à initier le scoutisme, dans des milieux sociaux très différents d'ailleurs, en général en ville, mais dans des milieux sociaux très différents, et avec des objectifs qui sont souvent assez différents. Leur seul point commun, c'est qu'ils se disent « Ah, attention, il ne faut pas faire comme les Anglais. Bon, il faut que le scoutisme soit national, il faut que ça soit bien français, donc essayons de copier ou de calquer la méthode anglaise, mais ne faisons pas exactement comme eux. »
Et qu'est-ce qui est devenu français, alors?
Pardon?
Qu'est-ce qui a été caractéristique de la France?
Bah écoutez, ce qui a été caractéristique de la France, je crois qu'on peut le résumer en une chose, c'est que là où les Anglais avaient fait une méthode, d'abord, et pas beaucoup d'institutions, les Français ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord fait une institution, et non sans mal, parce que naturellement il y a eu des scissions, des ruptures, etc. Et puis, on a oublié de préciser le contenu, souvent. Alors, si bien que la méthode, elle s'est fixée petit à petit, mais elle a mis des années, en fait, à se fixer. Et au début de l'histoire du scoutisme, on peut bien dire qu'il n'y a pas eu un scoutisme, mais des scoutismes, y compris à l'intérieur du cadre des éclaireurs laïcs, ou à l'intérieur du cadre des éclaireurs protestants.
Alors, votre travail, en fait, s'est centré, par la suite, plutôt sur les scouts de France, c'est-à-dire la branche catholique.
Oui, tout à fait, parce que d'abord, il y a un livre qui est paru déjà sur l'histoire des éclaireurs de France, donc je ne vais pas recommencer, il a été fort bien fait par deux anciens commissaires généraux du mouvement des éclaireurs de France laïque, Pierre Kergomard et Pierre François. Mais pour les scouts de France, effectivement, l'histoire est très heurtée au début, c'est-à-dire qu'avant la guerre de 14-18, comme je vous l'ai dit, il y a eu quelques tentatives isolées, il y en a eu à Paris, dans des milieux tout à fait divers, y compris en milieu tout à fait populaire d'ailleurs. Il y en a eu dans le nord de la France, il y en a eu en Bourgogne, plusieurs, notamment au Creusot, mais aussi à Mâcon, enfin dans plusieurs endroits de Bourgogne, et il y en a eu à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Et c'est peut-être celui de Nice, qui s'appelait au départ les éclaireurs des Alpes, qui a été le plus important, numériquement parlant en tout cas. Maintenant, il faut bien dire que ces premiers mouvements avaient à se heurter à une énorme difficulté, c'est que la plupart des évêques n'en voulaient pas. J'ai retrouvé des archives datant d'avant la guerre, des années 10 à 15, si vous voulez, qui étaient des archives qui attaquaient essentiellement le scoutisme tel qu'il se manifestait à l'époque, c'est-à-dire le scoutisme protestant ou le scoutisme laïque, mais ça n'était pas seulement des mises en garde, c'était véritablement des menaces d'excommunication vis-à-vis des parents qui envisageaient de mettre leurs enfants dans un de ces mouvements.
Et la raison invoquée par les évêques, en général, elle était laquelle ?
La raison, c'est que c'était un mouvement d'origine britannique, d'origine anglicane, entaché de protestantisme, entaché de franc-maçonnerie, et puis la véritable raison qui n'était pas dite, c'est que l'Église n'avait absolument aucun contrôle sur ce mouvement naissant. Il y a d'ailleurs tout de même un jésuite qui a commencé à se poser des questions, parce que malgré tout, et chose assez extraordinaire pour l'époque, il y avait quand même des enfants catholiques qui venaient dans les unités, peut-être pas protestantes, mais dans les unités d'éclaireurs neutres, d'éclaireurs laïques, il y en avait. Et plus il y en avait, plus ça posait des problèmes à l'Église tout de même, parce qu'elle s'est dit, il y a là quelque chose qui va nous échapper. Il y a déjà, vers 1913 ou 14, je crois, un jésuite qui, dans la revue Études, après une attaque en règle du scoutisme, parce qu'il fallait attaquer le scoutisme, dit, attention, tout de même, est-ce qu'il n'y a pas là une occasion de récupérer, en fait, c'est-à-dire de bénir le mouvement et de faire quelque chose qui soit plus proprement catholique. Ça commençait à poser problème, parce que, effectivement, d'autant plus qu'il y avait des pasteurs protestants qui disaient très naïvement à des aumôniers qu'ils connaissaient par là, à des prêtres, enfin, oh, mais dans notre unité, dans nos unités, nous avons 20 ou 25% de jeunes catholiques, n'est-ce pas ? Si ça continue comme ça, dans deux générations, nous aurons rendu le quart des jeunes catholiques français au pur évangile. Bon, c'est évidemment des raisonnements qui ne pouvaient pas ne pas mettre la puce à l'oreille de l'épiscopat.
Et en quelle année on peut dire que les évêques ont dit, marchons avec le scout de France ?
Bon, il faut rappeler qu'il n'y avait pas de conférence épiscopale, n'est-ce pas, à l'époque. Chaque évêque était maître dans son diocèse, donc chaque évêque avait sa politique. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à partir de quelle année. Les premiers évêques, dont l'archevêque de Paris, ce qui est très important, ont commencé à accepter le scoutisme dans les années 20, au début des années 20. Mais le dernier évêque qui a accepté officiellement le scoutisme des scouts de France dans son diocèse, ça date de 1943. Donc pratiquement, ils ont mis 20 ans, si vous voulez. Si on prend l'ensemble de l'épiscopat français, il a fallu 20 ans pour que le scoutisme soit vraiment accepté.
Ça doit faire tout drôle d'écouter ça, Madame Chollet. Vous dire que vous êtes dans un mouvement qui a mis 20 ans pour être accepté par l'Église catholique.
Oui, c'est vrai, et je crois que actuellement, on n'a pas forcément conscience de toute cette longueur de l'histoire. Et actuellement, on est tout à fait présent dans l'Église, hein, mais on n'a pas du tout conscience de ça.
Monsieur Raveau, vous avez fait partie du mouvement en quelle année ?
1944.
Alors, vous étiez un pionnier ?
Non, de même pas.
À Lyon, vous étiez ?
Oui, dire tout le temps à Lyon, oui.
À Lyon, peut-être, monsieur Lannery, l'évêque a été donc d'accord pour les scouts de France un peu plus tôt ?
Écoutez, je ne sais pas la date exacte, là, je ne peux pas vous dire, mais je crois qu'il a été plus tôt. Il y a une chose qu'il faut peut-être signaler, c'est que ça dépend il y a une différence géographique. Au-delà des différences de personnes, enfin de personnalité de chaque évêque, il y a tout de même globalement en France une différence géographique, c'est-à-dire que le scoutisme s'est implanté plus vite et plus facilement dans la moitié est de la France, et plus précisément dans le quart nord-est. c'est-à-dire le Nord, l'Alsace-Lorraine, la Bourgogne, la région lyonnaise, un petit peu aussi dans le Midi, ne serait-ce qu'à cause de l'antériorité des expériences niçoises. Mais c'est la France industrielle, c'est la France urbaine. L'Ouest, c'est-à-dire disons qu'à l'Ouest, et ce qui est extrêmement curieux de constater, c'est que c'est Paris maintenant. C'est-à-dire que les zones de force du scoutisme ont toujours été, jusqu'à maintenant, disons en gros à l'est d'une ligne qui va de Cherbourg à Montpellier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scoutisme à l'ouest, il y a tout de même des scouts à Bordeaux ou à Toulouse, mais dans la France qui à l'époque considérée, à l'époque des débuts du scoutisme, c'est-à-dire du premier tiers de siècle, était industrielle et urbaine, si vous voulez, dans le quart nord-est surtout, et était beaucoup plus rurale, et d'ailleurs plus catholique mais traditionnelle dans la moitié ouest en gros, hein, avec des différences importantes quand même suivant qu'on est en Aquitaine ou en Bretagne. Eh bien, c'est effectivement dans cette partie nord-est de la France que le scoutisme s'est implanté de façon le plus nette, le plus notable, et je crois que c'est par là aussi que les évêques ont accepté le plus vite, d'une manière générale, l'implantation de ce nouveau mouvement.
En fait, en même temps que les choses se développaient en France, on peut voir le développement dans les autres pays d'Europe et même peut-être au-delà.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, le succès international du scoutisme, je vous dis tout de suite, je n'ai pas étudié le scoutisme international de façon précise. Mais ce que je peux dire, c'est que le succès international du scoutisme a surpris Baden-Powell lui-même, il ne s'y attendait pas. Hein. Il faut répéter qu'il avait fait cette méthode pour l'Angleterre et pour son empire. Bon.
Mais comme ça qu'il y avait des scouts aux Indes, très vite.
C'est ça, il y en a eu aux Indes, il y en a eu au Canada très vite, mais il y en a eu aussi ailleurs, c'est-à-dire que très vite le scoutisme a débordé, et notamment il s'est implanté très vite dans des pays comme la Pologne, la Scandinavie, les États-Unis. Et puis aussi dans les pays latins, un peu plus tard, mais enfin dans les pays latins également.
Monsieur Raveau.
Le deuxième pays qui a accepté le scoutisme est le Chili, aussi bizarre que ça puisse paraître.
Vous êtes au courant comment ?
En lisant l'histoire du scoutisme et puis des tas de revues, quoi.
Monsieur Lanéry, vous le saviez ?
Non, je ne le savais pas. Vous voyez, je ne connaissais pas ce point d'histoire.
Oui, vous disiez que le développement donc, dans les pays du royaume britannique et puis aussi autour de la Méditerranée, les pays latins, ça enjambait aussi la Méditerranée.
Ça a enjambé la Méditerranée, mais plus tard encore, puisqu'il s'est répandu dans beaucoup de pays du tiers-monde.
L'influence sur les pays de l'Est.
Écoutez, là, c'est assez difficile à évaluer. Il y a eu une influence nette avant la guerre. Sur un certain nombre de pays de l'Est, avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, sur un certain nombre de pays de l'Est, il y a eu, de la part des régimes socialistes ou communistes, si vous voulez, une certaine copie de méthode du scoutisme qui a été faite ensuite. Je pense aux pionniers soviétiques. Bon, il est probable qu'il y a des coïncidences qui ne sont pas fortuites. Mais évidemment, ensuite, ce sont des mouvements qui ou ont été interdits ou ont été récupérés pour en faire une jeunesse d'État. C'est d'ailleurs souvent le cas aussi dans certains pays sous-développés à régime autoritaire.
Rappelons aux auditeurs que nous sommes en train de parler des scouts de France, de l'histoire des scouts de France, à partir du gros livre que vient d'éditer au CERF, M. Philippe Lanéry. Alors justement, on vient de faire une évocation internationale. M. Lanéry, revenons en France, peut-être avant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, revenons en France. Je voudrais tout de même faire une toute petite parenthèse pour dire, je reviens un peu en arrière là, mais pour dire que si j'ai fait ce livre, c'est aussi probablement parce que j'ai été scout. Bon, il m'en est resté des souvenirs et il m'en est resté des interrogations. J'ai été scout à la base, si on peut dire, c'est-à-dire jeune scout dans les années 50 à Nice précisément. Et puis j'ai été par la suite assistant et chef de troupe pendant 4 ans à Paris. Dans deux milieux d'ailleurs, dans deux troupes différentes et dans deux milieux assez différents, l'un qui était plutôt bourgeois et l'autre plutôt populaire. Et tout ça m'a posé, c'était une période en plus où le scoutisme évoluait de façon assez rapide mais différemment suivant les branches et il m'en est resté un questionnement, si vous voulez, il m'est resté un souvenir ambigu aussi. Il y avait des choses qui me plaisaient énormément dans le scoutisme, comme beaucoup de jeunes ou d'adolescents, et puis il y a des choses qui m'irritaient un petit peu. Et c'est ce souvenir un peu ambigu qui fait que je me suis posé des questions enfin par la suite et que ça m'a peut-être, ça a contribué à m'amener à faire cette espèce d'histoire, c'est un bien grand mot, mais enfin de recension de l'évolution du mouvement.
Vous avez des enfants qui sont scouts ? Ou non. Qui l'ont été ?
Non, j'ai deux enfants, mais ils ne sont pas scouts.
Donc le virus ne s'est pas encore transmis.
Le virus ne s'est pas transmis.
Vous êtes un témoin en même temps qu'un chercheur. Donc puisque on l'a déjà dit tout à l'heure, vous êtes membre du CNRS. Et en fait, on a vu, Madame Chollet nous le disait, l'intérêt de votre travail pour les jeunes justement, pour les jeunes générations qui aujourd'hui sont responsables à 20-25 ans.
Oui, effectivement. Et puis même les jeunes chefs qui eux sont... sont plus jeunes, bon, 20 ans, et à cet âge-là, on ne connaît pas l'histoire de l'évolution du scoutisme, et je crois que c'est important pour fonder ses racines et pour aussi faire une analyse, ne serait-ce que peu importante, de ce qu'on est en train de vivre.
Merci Madame Cholet. En fait, tout ce que nous avons dit là, en cette émission, vous le connaissiez déjà à peu près?
Je connaissais mal toute l'histoire du mouvement.
Vous saviez que Baden-Powell était franc-maçon?
Non, je ne savais pas ça. Je savais effectivement qu'il était un général
de l'armée britannique.
De l'armée britannique.
En fait, quand on dit franc-maçonnerie, il faut peut-être préciser, M. Lannery, que c'est pas du tout la Grande Loge de France.
Non, c'est pas la Grande Loge de France, ne serait-ce que parce que la franc-maçonnerie est un mouvement international d'abord, et ensuite parce que Baden-Powell étant anglais ne risquait pas d'appartenir à la Grande Loge de France.
Je veux dire, c'est une branche qui est très spirituelle, spiritualiste.
Oui, mais c'est comme ça qu'on l'aperçoit maintenant, mais il ne faut pas oublier que jusqu'au moins dans les années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la franc-maçonnerie était quelque chose d'absolument atroce pour l'Église et notamment pour les chrétiens traditionalistes. C'était l'ennemi numéro un.
Parce qu'on connaissait mal ?
Parce qu'on connaissait mal, parce qu'il y avait tout un tas de légendes plus ou moins fondées qui couraient autour des francs-maçons, parce qu'on les chargeait de tous les péchés, parce qu'il faut bien un bouc émissaire aux difficultés de la France. Bon, il y avait les francs-maçons. Malheureusement, vous savez qu'en Allemagne, il y a eu les juifs. Bon, c'était un petit peu le même processus, finalement, bien qu'il ait été heureusement beaucoup moins loin en France qu'en Allemagne.
C'est une question que vous suivez, que vous abordez dans votre livre ?
Laquelle ?
L'influence de la franc-maçonnerie dans le scoutisme.
Non, alors là, je voudrais dire une chose, c'est que ce livre, c'est un canevas. Hein, c'est-à-dire que l'une de mes ambitions en écrivant ce livre, c'était qu'il soit repris de façon beaucoup plus précise par la suite par des gens qui s'intéressent à des aspects beaucoup plus situés du scoutisme. Par exemple, soit des aspects locaux. Hein, c'est un canevas de l'histoire du scoutisme au plan national, mais ça n'aborde pas les aspects locaux. Soit des aspects beaucoup plus centrés sur un thème donné. Il y a des tas de choses passionnantes à faire. La symbolique scout, par exemple. Les relations entre... La pédagogie, l'histoire de la pédagogie scout, proprement dite, elle reste à faire. Et c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Ou bien encore, le scoutisme et la cité, le scoutisme et la nature aussi. Enfin, les images et pratiques de nature ont certainement été influencées dans nos sociétés de façon assez considérable par les mouvements scouts, disons.
Donc il y a encore beaucoup de travaux à faire, des travaux de recherche, des travaux d'adaptation. Merci Monsieur Lannery, puisque nous arrêtons là cette première émission. Merci Monsieur Raveau, merci beaucoup Madame Cholet. Nous nous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission, l'histoire du mouvement des scouts de France avec Philippe Lannery.